passer la parole à Sonia, Sonia de Pineuf, parce que...
Oui, je suis là.
Voilà, mais je sais, Sonia, que vous êtes là depuis le début. Sonia, donc, New York.
Oui, New York. Bah, comment résumer New York en 20 minutes?
C'est pas facile, hein?
Eh ben non, c'est une mission vouée à l'échec.
Bon, on arrête tout de suite, au revoir.
Non. Je vais essayer quand même de présenter quelques aspects de cette ville. Alors, je voudrais vous parler des gratte-ciels en particulier, qui sont sans doute ceux qui sont le plus présents dans l'imaginaire de tous les touristes et de tous les gens quand on décide d'aller à New York. C'est à ça qu'on va évidemment s'intéresser, pour voir si c'est suffisamment haut, si ça correspond à...
Je peux vous poser une petite question? Vous prononcez comment? New York ou New York?
Moi, je dis New York, c'est bien.
New York?
Oui.
Oui, mais c'est logique, oui. Non, non, parce que j'entends plein de gens qui disent New York, et c'est vrai que New, c'est New, quoi.
Oui.
Non, non, mais c'était juste un petit rappel.
Bon, on ne va pas parler de mon accent, hein. Typiquement new-yorkais. Non, non. Alors, The City of the World, comme le surnom... Paul Strand dans son film Manhattan, tourné en 1910, c'est-à-dire New York, fascine depuis plus d'un siècle le monde entier. New York est un symbole, celui d'une Amérique où tout devient possible. New York est une île devenue en l'espace de quelques siècles la ville la plus puissante de la planète. Dans son ouvrage New York Délire, le manifeste rétroactif du Manhattan, l'architecte Rem Koolhaas analyse la logique inébranlable de cette réussite. D'un territoire indien sauvage, dont il reste qu'un petit chemin de traverse qui s'appelle Broadway, Manhattan est devenue une mégapole au tissage ordonné, dans laquelle pourtant aucune homogénéité architecturale n'est de mise, si ce n'est l'exigence de construire haut, toujours plus haut. Je propose donc à nos auditeurs de faire un petit tour de ces gratte-ciels qui définissent aujourd'hui la skyline de New York et de raconter une petite histoire des grands gratte-ciels. Rem Koolhaas explique bien dans son livre le mécanisme qui a conduit à adopter le gratte-ciel à New York. C'est l'invention de l'ascenseur par M. Otis et sa présentation très spectaculaire au public en 1868 qui a convaincu les promoteurs immobiliers de l'avenir glorieux des immeubles à plusieurs étages. Un autre facteur important était bien sûr l'évolution des techniques constructives qui permettaient d'assurer la solidité des gratte-ciels. Ceux-ci trouvent leur précurseur dans les immeubles avec structure en fonte, dits « cast iron buildings », dont il subsiste de nos jours quelques très beaux exemples à New York, notamment dans le quartier très branché de Soho. Les architectes qui ont construit les premiers gratte-ciels à New York ont également regardé très attentivement ceux de Chicago, tel « Home Insurance Building », construit en briques et acier par William le Baron Genet en 1885. Le gratte-ciel est donc un bâtiment moderne par excellence en ce qui concerne sa structure et son équipement technique. Paradoxalement, sa décoration tarde à exprimer cette modernité. Les premiers gratte-ciels surprennent toujours par leur esthétique passéiste qui se plaît à citer le langage décoratif des siècles précédents. Ceci peut s'expliquer assez simplement. Les premiers constructeurs se devaient convaincre de la noblesse de leur building. Et cela ne pouvait se faire qu'en rattachant les gratte-ciels à une vieille tradition architecturale. L'ornementation néo-gothique fleurit sur les façades des gratte-ciels, qui sont de fait comparées à de nouvelles cathédrales. Ainsi, en 1902, l'architecte Daniel Burnham, qui appartenait à l'école de Chicago, a recours à l'ornementation néo-renaissance pour parachever un des plus hauts immeubles de New York de l'époque, le Fuller Building, qui est connu plus largement sous le nom de Flat Iron Building, ce qui signifie immeuble en fer à repasser. Ce sobriquet est donné au gratte-ciel par les New-Yorkais, surpris par sa forme originale, qui est dictée par la parcelle triangulaire que ce gratte-ciel occupe. Le Flat Iron devient immédiatement un sujet artistique. Alfred Stieglitz le photographie en 1903, donc juste un an après son achèvement, vu à travers les arbres enneigés du Madison Square. Il s'avance, tel un immense paquebot, dans la brume new-yorkaise. C'est une très belle photographie, et c'est aussi quand même un très beau sujet. Le Flatiron Building est absolument étonnant, puisqu'il est tout fin, surtout il donne cette impression, lorsqu'on le regarde de face, de l'angle, il s'élève haut, alors il est tout petit par rapport aux autres gratte-ciels qui ont poussé après, il n'y a que 22 étages. Mais il a cette finesse extraordinaire qui surprend encore aujourd'hui. Et donc Flatiron inaugure le 20e siècle avec sa ferveur constructive. Les années 1910, 1920, 1930, malgré la crise de 1929, sont marquées par la construction de plusieurs gratte-ciels emblématiques de New York. En 1924, par exemple, Raymond Hood et John Howells construisent le Radiator Building pour la société américaine American Radiator and Standard Sanitary Company. C'est un immeuble qui surprend surtout par sa couleur noire, qui devait figurer le charbon. Le charbon qui servait sans doute à alimenter le chauffage. Hein. La façade au niveau de rez-de-chaussée et le couronnement sont ornés de motifs vaguement néo-gothiques. Et il faut souligner ici que c'est une constante dans l'architecture des gratte-ciels depuis l'enseignement de l'école de Chicago, parce que c'est là que les premiers gratte-ciels voient vraiment le jour, que de réserver à la décoration les surfaces situées aux extrémités du bâtiment, c'est-à-dire les étages inférieurs, hein, qui sont donc toujours traités comme un haut socle sur lequel repose le bâtiment, et les étages supérieurs, mais vraiment ceux qui sont complètement sous la corniche, enfin complètement à haut, qu'on peut aussi donc appeler couronnement. Et pourquoi ceci ? Eh bien, parce que finalement, ce sont les deux seules portions du gratte-ciel que l'on perçoit vraiment. Le rez-de-chaussée crée un cadre monumental aux accents proprement urbains pour le passant. Donc quand on passe à côté d'un gratte-ciel, on est dans un environnement assez luxueux le plus souvent. Tandis que le couronnement donne l'identité du gratte-ciel dans la skyline de la ville. Et entre les deux, c'est la façade, très très longue façade, où se multiplient les fenêtres dans les rangs sans fin. Le couronnement du gratte-ciel est un enjeu décoratif très important, car c'est là que l'architecture du gratte-ciel devient une architecture parlante, c'est-à-dire qu'elle va vraiment nous informer visuellement de la fonction du building. Et donc, en effet, plus qu'à une cathédrale, le Radiator Building ressemble à un radiateur en fonte, tel qu'on les fabriquait à l'époque de sa construction. Les motifs du couronnement sont des rehaussés de la couleur dorée pour que l'immeuble resplendisse au loin. Bon, ça, évidemment, c'est un ajout par rapport au radiateur en fonte qui n'était pas forcément doré. Et donc, tout comme Flatiron, le radiateur est regardé par les artistes très rapidement. L'épouse de Stieglitz, la célèbre peintre Georgia O'Keeffe, va le peindre dans une de ses toiles et pour l'immortaliser, elle opte pour un point de vue bien différent de celui qu'a choisi son époux en 1902. Elle monte dans un gratte-ciel en face. Elle représente le radiator dans une vue nocturne, tel un motif décoratif à plat.
Sonia, on reprend votre discussion très intéressante, hein, après une petite pause musicale, oui. Si vous permettez. Je demandais à Jocelyne Sévère-Kerbonne de nous interpréter In the Way We Were, interprété donc par Jocelyne Sévère-Kerbonne et accompagnée par André Lesquer en direct du studio.
Oui, je voudrais auparavant
dire quelques petits mots de cette
chanson, enfin de la chanson qui est tirée du film Nos plus belles années. C'était un film qui avait été réalisé par Sidney Pollack en 1973 et qui avait pour vedette, pour interprète principaux Barbara Streisand et Robert Redford. Donc avec cette histoire d'amour de Hubble, qui était un jeune écrivain désinvolte, playboy, et sa rencontre donc avec Cathy, qui représentait une jeune militante juive et communiste. Donc ces deux êtres que tout sépare, dont vont s'attirer, mais se retrouveront quelques années plus tard, se marieront, vivront à New York, mais le fossé culturel va les séparer finalement, malgré les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Donc je vais vous interpréter cette chanson que j'aime beaucoup. Memories like the corners of my mind, misty watercolors, memories of the way we were. captured pictures of the smiles we left behind. Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be it was also simple then? Oh, as time had written every line, if were the chance to do it all then, tell me what we could we. Memories may be beautiful and yet was too painful to remember. We simply choose to forget. So it's lawful. We will remember. Whenever we remember the way we were, the way we were.
Un vrai régal.
Merci beaucoup, Jocelyne Sever-Kerbonne, André Lesker, In the Way We Were. interprété habituellement par Barbara Streisand, il me semble, mais votre interprétation est parfaite.
parfaite. Disons que je l'ai faite à ma manière.
Et avec votre sensibilité.
My way.
Je vais.
Sans répétition.
On l'avait oublié, celui-là, parce que ça fait 2 ans et demi qu'il nous fait sans répétition. Jocelyne, merci. Je merci André. On était donc avec Sonia Depineuf qui nous parle ce soir de New York, dont elle revient. Et puis je vais faire un petit coucou à Martine Burdalski qui vient de nous rejoindre. Martine,
bonsoir. Bonsoir.
Vous nous ferez tout à l'heure, après Sonia, un petit acrostiche, bien comme sûr. Tous les jeudis soirs. Sonia.
Eh bien, on a parlé de radiateur building qui ressemble à un radiateur en fonte, hein, notamment dans la partie haute du bâtiment, dans le couronnement. Et donc, d'autres gratte-ciel de la même époque rivalisent avec le radiateur dans l'ornementation sophistiquée des derniers étages. Et c'est le cas du célèbre Chrysler Building, qui est construit par William Van Allen à la fin des années 20 pour le siège de la compagnie des automobiles Chrysler. Sa flèche métallique spectaculaire, véritable prouesse technique, s'inspire des motifs de calandre des voitures Chrysler, qui s'encastrent dans une cascade vertigineuse pour culminer à près de 320 mètres, faisant de Chrysler, pour quelques années seulement, le plus haut bâtiment du monde. Et Margaret Bourke-White, notre photographe tout à fait active dans les années 20-30 aux États-Unis, la photographie en contre-plongée en 1931, c'est encore une très très belle photographie en noir et blanc. Et c'est peut-être aussi le gratte-ciel le plus beau à contempler lorsque son couronnement s'illumine dans la nuit new-yorkaise. Chrysler est aussi magnifique dans la finition de son rez-de-chaussée, notamment dans le hall d'entrée, tout de marbre vêtu, où se manifeste avec force le style art déco. C'est le style qui va envahir dans les années 30 l'île de Manhattan, faisant office de la véritable architecture historique de New York. L'art déco est en effet une esthétique multiple, qui par ses nombreuses contradictions s'adapte parfaitement au type architectural qu'est le paradoxal gratte-ciel. Art déco est sinon né, tout au moins consacré en France lors de la grande exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, qui tenait à Paris. Et l'art déco se nourrit donc des univers multiples. Dans la lignée de l'art nouveau, il s'intéresse à la fleur, mais à la différence de l'art nouveau, justement, il la stylise, il la géométrise. Car les artistes et les architectes art déco sont aussi sensibles à la peinture moderne, et en particulier au cubisme, à la vogue d'égyptomanie, aux arts dits primitifs, en même temps qu'au monde machiniste. Donc vraiment les inspirations multiples et variées. Et tous ces éléments contradictoires s'articulent dans les œuvres art déco, qui sont essentiellement des objets d'art et des architectures. Rapidement après l'achèvement du Chrysler Building, L'Empire State Building vient le détrôner de son statut du plus haut gratte-ciel. Devenu donc le plus haut bâtiment de New York pendant des décennies, et il l'est redevenu après la destruction des jumelles le 11 septembre 2001, Empire State Building est un fleuron de l'art déco. Avec ses masses architecturales en cascade, avec sa flèche monumentale abstraite culminante à plus de 380 mètres, et avec sa somptueuse décoration intérieure, où on remarque les médaillons en laiton, célébrant les quatre éléments essentiels des gratte-ciels. L'ascenseur, la maçonnerie, le chauffage et la décoration intérieure, évidemment. D'autres gratte-ciels new-yorkais vont se plaire à se parer de cette décoration art déco, si bien qu'on trouve à chaque coin de la rue des façades ornées de fleurs stylisées, de figures géométrisées ou de motifs géométriques vaguement cubistes. Il faudra attendre l'après-guerre pour voir l'art déco sérieusement concurrencé par le style international qui représente une rupture radicale avec l'univers très décoratif propre à l'art déco. Autant l'art déco est décoratif, comme son nom le laisse entendre, autant le style international est absolument contre l'ornement. C'est vraiment, il est basé sur l'idée que l'ornement est un crime. Je cite Adolf Loos, qui est un précurseur de ce mouvement très puriste. Et donc, pour en donner un exemple, c'est le bâtiment de l'ONU, qui est construit en 1945, qui est vraiment l'exemple le plus illustre de ce style international extrêmement lisse. Les façades, au contraire, sans aucune ornementation, on est vraiment dans la sobriété presque nihiliste. Et donc, toute la seconde moitié du XXe siècle est jalonnée par la construction des gratte-ciels à New York. Le downtown, dont on a tout à l'heure parlé, enfin, on a entendu une chanson, c'est le quartier sud de l'île de Manhattan, acquiert progressivement sa silhouette époustouflante que les touristes peuvent admirer en empruntant le fameux Brooklyn Bridge ou en arrivant en bateau. C'est encore mieux. Le gratte-ciel s'y construisent dans une trame très serrée, aux accents pittoresques, qui est en fait un souvenir tangible de la Nouvelle-Amsterdam. La Nouvelle-Amsterdam, ce fut le premier nom de New York. Et cette trame est bien différente de la trame orthogonale de Midtown et de Uptown, qui est vraiment dessinée pour accueillir les gratte-ciels d'une manière un peu plus logique. Mais ce qui est justement très attachant dans le downtown, c'est cet aspect un peu tarabiscoté des rues. Alors quand on regarde le plan simplement, on a l'impression qu'on va se retrouver dans les petites ruelles avec des petites maisons charmantes. Et en fait, on se retrouve dans les petites ruelles, mais avec des grands gratte-ciels charmant aussi. Donc c'est un contraste qui est absolument propre à New York, parce que New York, c'est une ville pleine de contradictions. C'est une ville comme un collage, de plein de vues différentes. Et donc les gratte-ciels les plus récents vont oser l'extravagance, après ce passage un peu puriste du style international, comme c'est le cas de Hearst Tower de l'architecte Norman Foster. C'est une tour en verre à la silhouette en facette, un peu biseautée, qui est construit en 2006 sur un immeuble art déco préexistant, qui fonctionne de fait comme un socle à ce nouveau gratte-ciel. Alors c'est très contradictoire, mais c'est justement ce qui est typique de New York, et c'est une très belle réalisation où le passé et le présent de l'architecture des gratte-ciels sont confrontés de manière éclatante. Et bien sûr, les années à venir nous réserve une modification importante de la skyline new-yorkaise, qui était un peu défigurée par les attentats du 11 septembre 2001, puisque s'y prépare la construction des nouveaux gratte-ciels sur ce terrain qu'on appelle le Ground Zero, l'endroit donc où se dressaient les fameuses jumelles de World Trade Center. Voilà.